Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Makot, page 2, Daf Bet. Bonne écoute et bon limoud.
Nous allons cependant débuter par une petite introduction. La signification du mot Makot veut dire des coups. C'est-à-dire ça fait allusion à la peine de flagellation qui était administrée à des personnes qui avaient transgressé certains interdits de la Torah. D'après certains commentateurs, le traité de Makot, en fait, est la continuation directe du traité de Sanhédrin et fait partie de ce premier traité. Cependant, le Rambam refute cette idée et pense que le traité de Makot est un traité à part. Le traité de Makot est partagé en trois parties, trois chapitres. Le premier chapitre qui nous parle des témoins zomémim, et nous allons expliquer un peu plus loin que veut dire des témoins zomémim. Le deuxième chapitre, Elohen Agolim, et voici ceux qui sont exilés, nous parle de la peine d'exil qui est administrée à une personne qui a tué sans faire exprès. Donc ça nous parle dans quel cas on est exilé, où on est exilé, etc. Et le troisième chapitre, Elohen Alokin, et voici ceux qui sont passibles de peine de flagellation, nous parle de toutes les personnes qui sont passibles de peine de flagellation. Quand est-ce qu'on est passible d'une telle peine? Et de quelle façon cette peine est administrée? La raison pour laquelle le nom du traité est Makot, peine de flagellation, alors qu'un seul de ce chapitre en parle, le Rambam nous explique, car étant donné que c'est le dernier chapitre, et de plus, même le premier chapitre qui nous parle des témoins zomémim fait allusion dans les trois premières Mishnayot et nous parle de la peine de flagellation, c'est pour cela que le nom qui a été donné à ce traité est Makot, peine de flagellation. Nous allons débuter maintenant le premier chapitre qui nous parle des Edim Zomémim, des témoins Zomémim. La Torah a dit que chaque fois que deux personnes venaient témoigner devant le tribunal, on devait croire ces témoins et rendre un jugement en se basant sur les dires de ces témoins. S'il se trouve que deux autres témoins viennent contredire ces premiers témoins, alors à ce moment-là, les quatre témoins que nous avons ici sont appelés Edim Mukrashim, des témoins qui ont été contredits. Par exemple, deux personnes viennent et disent « Monsieur Reuven a tué Monsieur Shimon ». Ils témoignent que Monsieur Reuven a tué Monsieur Shimon. Donc dans un cas pareil, Monsieur Reuven est passible de peine de mort. Le tribunal se base sur les dires des témoins et peut donc automatiquement rendre une peine de mort à Reuven. Mais si deux autres témoins viennent et disent aux deux premiers témoins, comment pouvez-vous témoigner que M. Reuven a tué M. Shimon, alors que nous, ce matin même, nous avons vu M. Shimon, ou hier, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas témoigner que M. Shimon est mort, alors que nous avons vu que M. Shimon est vivant. Donc en fait, les deux derniers témoins contredisent les premiers témoins. Alors dans un cas pareil, c'est appelé Edut Mukreshet, des témoins qui ont été contredits, et le tribunal ne peut se baser sur les dires ni des deux premiers, ni des deux derniers, et c'est pour ça que le tribunal, dans un cas pareil, ne rendra pas de décision. Il existe un autre cas où les témoins sont contredits, mais ce cas-là est différent. Ce cas-là, c'est le cas des Edim Zomémim. La traduction littérale de Zomémim, ça veut dire quelqu'un qui a eu l'intention de faire quelque chose. Et l'explication du cas est comme cela. Si deux personnes ont par exemple témoigné que M. Reuven a tué M. Shimon, et deux autres témoins viennent et témoignent sur les premiers témoins et leur disent « Comment pouvez-vous témoigner que M. Reuven a tué M. Shimon dimanche à telle heure, alors que dimanche à telle heure, vous-même étiez avec nous à un autre endroit » C'est-à-dire qu'en fait, les deux autres témoins viennent et disent « Imanu haitem bemakom acher » Vous étiez avec nous à un autre endroit. Et donc automatiquement, vous ne pouvez pas témoigner ce que vous témoignez. C'est-à-dire, en deux mots, vous mentez. Dans un cas pareil, nous ne disons pas que les quatre témoins sont appelés Edut Mukreshet, des témoins qui ont été contredits, et nous ne savons pas qui croire, mais nous croyons les derniers témoins. Ça, c'est un décret de la Torah que nous croyons, dans un tel cas, nous croyons les derniers témoins. Ce processus est appelé la Hazama. Rendre les deux témoins, les deux premiers témoins, zomémim. Donc maintenant, les deux derniers témoins s'appellent qu'ils ont fait la Hazama, et ils ont rendu les deux premiers témoins, zomémim. Et donc, nous croyons les deux dernier témoin. La Torah, en plus de nous dire que l'on croit les deux derniers témoins, nous a dit que les deux premiers témoins étaient passibles de punition. C'est-à-dire, étant donné qu'ils ont eu l'intention de punir par l'intermédiaire du tribunal la personne sur laquelle ils ont témoigné, comme par exemple dans notre cas, ils ont témoigné que M. Rouven a tué M. Shimon, donc ils ont voulu rendre passible de peine de mort M. Rouven. Donc, alors, la Torah nous dit, étant donné qu'ils ont voulu rendre passible d'une punition la personne sur laquelle ils ont témoigné, eux-mêmes subiront cette punition. Et donc, dans notre cas, nous disons que les deux témoins qui sont devenus Zomémim, c'est eux qui vont recevoir la peine de mort qu'ils ont voulu infliger par l'intermédiaire du tribunal à M. Reuven. Le premier chapitre, donc, de notre été, va nous parler des cas des Edim Zomémim, des témoins qui sont devenus Zomémim, comment on peut les rendre Zomémim, et quelles punitions vont-ils recevoir, etc. Et nous sommes Daf Bet Amud Aleph, première page du traité Brachot, et nous commençons. Ketzad Aedim Nesim Zomémim. Comment les témoins deviennent Zomémim? La Mishnah nous dit, Meidim Anu Beishploni. Si deux témoins témoignent que nous témoignons sur une telle personne, Sheu Ben Grusha, qu'il est fils d'une femme divorcée. C'est-à-dire que c'est un Kohen, mais que sa mère est une divorcée. Or, il y a un interdit au Kohanim de se marier aux femmes divorcées. Donc, en fait, son père a transgressé cet interdit. Et il y a une loi qui nous dit que si le père a transgressé cet interdit et s'est marié à une femme divorcée, l'enfant est appelé halal, c'est-à-dire un Kohen qui a été profané. Un tel enfant ne pourra servir au temple. Donc, si deux témoins viennent et témoignent sur une personne qu'elle est le fils d'une femme divorcée, c'est un Kohen qui est fils d'une femme divorcée, et donc ne peut servir au temple, ou ben chalutza, ou témoigne sur une personne que c'est un Kohen, fils d'une femme qui a eu la chalutza. La chalutza, c'est une loi qui nous dit que lorsqu'une personne meurt sans enfant, alors la femme de cette personne devra se marier avec le frère de son mari. C'est appelé le yiboum. Si le frère de ce mari ne veut pas se marier avec cette femme, alors on procède à la chalitza, c'est-à-dire la femme amènera cette personne, ce frère donc de son mari, devant le tribunal, lui enlèvera sa chaussure, crachera devant lui et dira « Monsieur un tel n'a pas voulu se remarier avec moi ». Ça, c'est appelé la chalitza. Les sages ont décrété qu'une femme qui a procédé à la chalitza est considérée comme une divorcée et n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Donc, si un Kohen s'est marié avec une chalitza, l'enfant est appelé halal, un Kohen profané. Et donc, puisque c'est ainsi, il ne pourra servir au temple. Donc, en fait, dans ces deux cas, si deux témoins ont témoigné que cette personne est un Kohen profane qui ne peut servir au temple, alors, en omrim yaseze ben gerusha ou ben chalutza tartab. Nous n'allons pas dire sur ces deux témoins s'ils sont devenus zomémim, c'est-à-dire que si on a témoigné, comment pouvez-vous témoigner que vous savez que à telle et telle date, sa mère a divorcé ou sa mère a eu la chalitza, alors qu'à telle et telle date, vous étiez avec nous à un endroit complètement différent. Donc en fait, s'ils sont devenus zomémim, nous ne dirons pas que eux seront punis de la punition qu'ils ont voulu infliger à cette personne et deviendront eux-mêmes des kohanim profanés. Et là, mais ils seront punis d'une peine de flagellation de 40 coups. Et nous allons expliquer dans la Gemara pour quelles raisons ne reçoivent-ils pas la punition qui normalement on devrait leur donner, c'est-à-dire la punition qu'ils ont voulu infliger à la personne sur laquelle ils ont témoigné. La Gemara nous rapporte maintenant un autre cas où les Edim Zomémim, les témoins Zomémim, ne reçoivent pas la punition qu'ils ont voulu infliger. Mais Edim Anou Beish Ploni Shuchayav Liglot. Nous témoignons sur monsieur un tel qu'il est passible d'une peine d'exil car il a tué sans faire exprès. Si ces témoins sont devenus zomémim, c'est-à-dire que deux autres témoins leur ont dit comment pouvez-vous dire que vous avez vu que monsieur un tel a tué sans faire exprès alors qu'à telle date vous étiez avec nous à un autre endroit. Alors, en omrim iglez de tartam, nous ne dirons pas que ces témoins vont partir en exil à sa place, elle a loqué arbaïm, mais ils seront punis d'une peine de flagellation de 40 coups. Et nous allons expliquer aussi sur ce cas-là pourquoi nous ne leur infligeons pas la peine qu'ils ont voulu infliger à la personne sur laquelle ils ont témoigné. La Gemara demande, Ha, ketzad en aedim nesim zomemim ibaire. La Gemara pose une question. nous aurons dû dire comment les témoins ne deviennent pas homémimes. C'est-à-dire, la Mishnah débute et nous dit comment les témoins deviennent homémimes, et la Gemara et la Mishnah continuent et nous parlent d'un cas où ils ne reçoivent pas la peine qu'ils ont voulu infliger. Donc, en fait, ils ne sont pas homémimes. Ils ne deviennent pas homémimes. Donc, la Mishnah aurait dû poser la question comment des témoins ne deviennent pas homémimes. Vod, et de plus, midektan et les kaman, puisque nous avons enseigné plus loin, aval amroulaim, mais s'ils leur ont dit, et achatem meidim, comment pouvez-vous témoigner, share beotoyam, car ce même jour, atem aitem imanu bimkamploni, vous étiez avec nous à tel endroit, c'est-à-dire un endroit différent de l'endroit sur lequel vous dites que vous avez témoigné, arel zomemi, ça, ce sont considérés des témoins qui sont devenus zomemi. Donc nous avons vu plus loin une explication, quels sont des témoins zomemi. Alors, pourquoi avons-nous besoin de poser la question ici, comment les témoins deviennent homémimes? Alors la Gemara répond, Tana, le Tana, Hatamkaï, se rapporte sur ce que nous avons enseigné là-bas, c'est-à-dire à la fin du traité de Sanhedrin qui a précédé le traité de Makot. Et là-bas il est dit, Kol azomemim magdimim leotamita. Tous les témoins qui sont devenus zomemim reçoivent la même peine de mort qu'ils ont voulu infliger. Rous mizomeme bat kohen ou boala. À part les témoins homémim qui ont témoigné sur la fille d'un Kohen et sur la personne avec laquelle elle a eu des relations intimes interdites. C'est-à-dire, il y a une loi qui nous dit que chaque femme mariée qui a eu des relations intimes avec un autre homme que son mari est passible de peine de mort par strangulation. Si cette femme mariée était la fille d'un Kohen, elle est passible de peine de mort par le feu. Donc en fait, lorsque deux témoins viennent témoigner que madame Intel, fille d'un Kohen, a eu des relations interdites avec une autre personne, ils ont voulu la rendre passible de peine de mort par le feu. Si ils eux-mêmes sont devenus zomémim, alors dans un cas pareil, la Gemara nous dit qu'ils ne recevront pas une peine de mort par le feu, mais une peine de mort par strangulation. Chez El Magdimino Tamita, c'est ce que la Gemara nous dit, qu'ils ne reçoivent pas la même peine de mort qu'ils ont voulu infliger, et là, la Mita reste, mais une autre peine de mort. Ça, c'est ce qui a été enseigné à la fin du traité de Sanhedrin. Et la Gemara continue et nous dit, et l'Agma nous dit en fait, le traité de Makot, c'est la continuation du traité de Sanhedrin, et donc l'Agma continue sur le lancer de la fin de Sanhedrin. Veyesh edim zomemim, et il y a d'autres témoins zomemim, she'en osim ba'em din azama kolikar, qui ne reçoivent pas du tout la loi de Azama, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas du tout la peine qu'ils ont voulu infliger, et la malkout, mais seulement une peine de flagellation arbaim par 40 coups. Ketad, comment cela? Et c'est ce que la Mishnah nous dit ici. Ketad Aedim, Nesim Zomemim. Comment les témoins Zomemim reçoivent une autre peine que la peine qu'ils ont voulu infliger? Puisque c'est de cela que nous parlons, et la Mishnah nous explique, Meidim Anou Beishloni, si nous témoignons sur une personne telle, Sheoub Ben Groucha, qu'il est un Kohen, fils d'une femme divorcée. Ou ben Khalutza, ou fils d'une femme qui a eu la Khalitza. Et donc, automatiquement, c'est un Kohen qui est profané et ne peut servir au temple. Alors, en omrim yaseze ben Gerusha ou ben Khalutza, nous n'allons pas dire que ces témoins vont devenir des fils de divorcés ou fils d'une femme Khalitza à sa place. C'est-à-dire, nous n'allons pas dire que les témoins vont devenir des Kohen profanes à sa place. Et là, l'okay tabaim, mais ils seront passibles d'une peine de flagellation par 40 coups. La Gemara demande Minan et Milé, d'où l'apprenons-nous? C'est-à-dire, d'où savons-nous que ces témoins ne reçoivent pas la punition qu'ils ont voulu infliger? Amar Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Shua ben Levi a dit, de Amar Kra, car le verset a dit, Vasitem lo kasher zamam, et vous lui ferez comme il a eu l'intention de faire. C'est-à-dire, qu'il est dit sur les témoins qui sont devenus zomémim, qu'on leur fera ce qu'ils ont eu l'intention de faire. Et de là, nous apprenons, lo, à lui, c'est-à-dire au témoin qui a témoigné, on lui donnera une telle punition. Velo les arros, mais pas à sa descendance. Or, si nous le rendons Kohen profane, nous rend profanons aussi toute sa descendance. Et ça, sa descendance ne le mérite pas. C'est lui qui doit être puni, non pas sa descendance. Alors, Agma demande, velifse ou les didés, velo lifse ou les arrêts. Rendons-le inapte et ne rendons pas inapte sa descendance. C'est-à-dire, rendons-le que lui, Kohen profane. Alors, Agma nous dit, bainan karchir zamam la sot veleika. La punition est qu'on lui doit lui infliger une punition comme ce qu'il avait eu l'intention de faire. Or, lui, il avait l'intention de le rendre profane, lui et toute sa descendance. Donc, en fait, si on veut le punir, on doit le rendre profane, lui et toute sa descendance. Et ça, on ne peut le faire. Barpada Omer, Barpada dit, et il apprend d'une autre façon. Kal vachomer, on peut l'apprendre par un raisonnement a fortiori. Uma mechalel eno mitralel, si déjà celui qui a profané, c'est-à-dire le père de cette d'une personne qui est fils d'une femme mariée, c'est-à-dire d'une femme divorcée, c'est-à-dire un Kohen qui s'est marié avec une femme divorcée. Donc il profane sa descendance, mais lui-même ne se profane pas, c'est-à-dire lui-même est encore apte au service au temple. Donc nous voyons que celui qui a profané sa descendance ne se profane pas. Alors, Abba le Chalel velo Chilel, celui qui est venu profaner mais n'a pas profané, c'est-à-dire les témoins homémimes qui ont voulu profaner par leur témoignage, mais qui, puisqu'à la fin s'avèrent menteurs, n'ont pas profané, et nos dînes chez l'Oïtralel, n'est-ce pas, à plus forte raison, qu'eux-mêmes ne pourront pas être profanés, si déjà celui qui est profané, alors il lui-même n'est pas devenu profane. Alors c'est sûr que celui qui n'a que voulu profaner, mais n'a pas profané vraiment, alors c'est sûr que lui ne pourra pas devenir profane. Alors Matif la Rabina, Rabina pose une question à Barpada, Imken, si c'est ainsi, Bital ta Torah te dim zomemim, tu as annulé la loi des témoins zomemim.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante, Davet Amoud Alef. Car on peut faire encore un autre raisonnement a fortiori. Uma asokel eno niskal, si déjà celui qui a lapidé n'est pas lapidé. C'est-à-dire, il y a une loi dans les témoins homémimes qui nous dit que s'ils ont témoigné sur une telle personne qu'il est passible d'une telle punition, alors ça dépend. S'ils sont devenus homémimes avant que la punition n'ait été infligée, alors on les punira eux. Mais s'ils sont devenus homémimes après que la punition n'ait été administrée, alors dans un cas pareil, nous disons, ces témoins ne peuvent être expiés, ils ne recevront pas de punition. Par exemple, si deux témoins ont témoigné que M. Untel a profané le Shabbat, M. Untel, donc d'après leur témoignage, est passible de peine de lapidation. S'ils sont devenus homémimes avant qu'on ait lapidé l'accusé, alors eux-mêmes seront lapidés. Mais s'ils sont devenus homémimes après que l'accusé n'ait été lapidé, alors dans un cas pareil, ils ne seront pas lapidés, on ne leur administrera pas de punition. Donc si déjà, la Gemara va prendre de telle façon, si déjà celui qui a lapidé, c'est-à-dire si on a lapidé en se basant sur les dires de deux témoins mensongers, et qu'après il s'avère qu'ils sont menteurs, et non iskal, alors ces deux témoins ne seront pas lapidés, habal iskol velosakal. Elodin Shelo Isakel, celui qui n'a fait que vouloir lapider, mais qui n'a pas lapidé, c'est-à-dire deux témoins mensongers, et qu'on s'avère qu'ils sont menteurs, c'est-à-dire zomémim, avant que l'accusé n'ait été lapidé. Donc en fait, ils n'ont que voulu lapider. Leur intention n'a pas été accomplie. Et donc, en fait, ils n'ont que fait que vouloir. Et donc, n'est-ce pas, à plus forte raison, qu'ils ne devront pas être lapidés. C'est-à-dire, si déjà quelqu'un qui a vraiment tué, alors lui-même n'est pas tué. Alors, celui qui n'a fait que vouloir tuer, n'est-ce pas, à plus forte raison, qu'il ne doit pas être tué. Et donc, si c'est ainsi, nous refutons tous les raisonnements des témoins homémimes. Parce qu'à chaque fois que des témoins homémimes vont venir, alors on pourra dire un tel raisonnement. Et la mechouvata kedeshani nomé karalagma nous dit, alors la vérité est, comme nous avons enseigné au début, c'est-à-dire la première réponse qu'il est écrit dans le verset, vous lui ferez comme il a eu l'intention de faire, seulement à lui et non pas à sa descendance. La Gemara rapporte maintenant un autre extrait de la Mishnah. Meidi manu beishloni shuchayav galut. Nous témoignons sur une telle personne qu'il est passible de peine d'exil. Alors la Mishnah nous dit que si ces deux témoins se sont fait devenir zomémim, alors nous ne disons pas qu'ils vont eux-mêmes être exilés, mais ils sont passibles d'une peine de flagellation par 40 coups. Alors ma demande, Mina Némile, d'où l'apprenons-nous? Amar Reshlakish, Reshlakish a dit, Damakra, car le verset a dit, Hu Yanus El Echat Harim, et lui s'enfuira vers une de ces villes. Et nous parlons ici de quelqu'un qui a tué sans faire exprès. Et nous apprenons de là, Hu Velo Zomémim. Lui et pas les témoins homémimes, c'est-à-dire seulement celui qui a tué sans faire exprès pourra s'enfuir vers une de ces villes, mais non pas les témoins homémimes. Rabbi Yochanan dit, une autre façon d'étudier, Kal vachomer, nous l'apprenons par un raisonnement a fortiori. Comment cela? Uma ou Shahasama Sebemezid et Nogolé, si déjà quelqu'un qui a tué exprès ne part pas en exil, mais il est passible de peine de mort, et s'il n'y a pas de témoins qui l'ont vu tuer, ou alors qu'il y avait des témoins mais qui ne l'ont pas prévenu que c'est interdit, alors il n'a pas de punition. Alors, en, chez l'Oasuma, c'est Bemzid, eux qui n'ont pas fait de geste exprès, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tué, ils n'ont fait que témoigner et en fait lorsqu'ils ont eu l'intention de faire n'a pas été accompli, et nos dînes chez le Iglo, alors n'est-ce pas plus votre raison qu'ils ne devront pas partir en exil, c'est-à-dire si déjà quelqu'un qui a tué part en exil, et ne part pas en exil, alors c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas tué ne partira pas en exil. Alors ma réponse, veillez à un hôtel. En fait, ce n'est pas un vrai raisonnement. Justement, ou chez Asama Sebemezid, lui, quelqu'un qui a tué exprès, l'Oliglé ne pourra pas être exilé, qui est Redelot Yavel et Kapara, afin qu'il ne soit pas expié de sa faute. Hen, chez l'Oasubema Sebemezid, eux qui n'ont pas fait de geste exprès, c'est-à-dire, ils n'ont fait que témoigner, ils n'ont pas accompli quelque chose, alors Nami Liglou, où ils partent, oui, en exil, qui est Redelot Yavel et Kapara, afin qu'ils soient expiés de leur faute. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fauté et qui a tué, alors c'est sûr qu'une telle personne, il ne pourra pas être exilé pour ne pas être expié. Mais quelqu'un qui n'a pas fait un geste vraiment, qui n'a pas tué, alors dans un cas pareil, peut-être qu'il pourra, oui, partir en exil pour être expié de sa faute. Et alors, Agma nous dit, la mechouvata keder Resh Lakish. Alors, la vérité suit le premier raisonnement de Resh Lakish, comme nous l'avons dit plus haut, que nous l'apprenons du verset. Lui s'enfuira vers une des villes de refuge, et pas quelqu'un, et pas les témoins zomémim. Amar Oula. Oula a dit. Remez l'edim zomémim mina Torah, minaïn. Une allusion aux témoins zomémim dans la Torah, d'où y en a-t-il, où y en a-t-il? Agma demande, remez l'edim zomémim, une allusion sur les témoins zomémim. Véactif, pourtant, il écrit explicitement dans la Torah, Vasitemlo kasher zamam, et vous lui ferez ce qu'il a eu l'intention de faire. Donc, nous n'avons pas besoin d'allusion, c'est écrit explicitement. Et là, alors, il me demande, remez l'edim zomémim shelokim mina Torah minaim. Une allusion que les témoins zomémim reçoivent une peine de flagellation et non pas la punition qu'ils ont voulu infliger dans la Torah où est écrit. Ça, ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah, mais c'est, il n'y a qu'une allusion. L'Agma nous dit d'Irtif, car il est écrit dans le verset, « Vehitzdiku et tzadik » et on déclarera innocent l'innocent, « Vehirshiu et arasha » et coupable celui qui a tort. « Vehaya imbinakot arasha » or, si le coupable a mérité la flagellation, etc. Et l'Agma demande, « Mishum vehitzdiku et tzadik vehirshiu et arasha » allons-nous dire que parce que les juges ont rendu leur décision et ont déclaré innocent l'innocent et coupable celui qui est coupable, alors le coupable est passible d'une peine de flagellation. Comment est-ce possible? C'est pas à chaque fois qu'il y a un coupable qu'il y a une peine de flagellation. Alors il faut expliquer différemment. Nous sommes obligés en fait de dire ici que nous ne parlons pas des juges qui ont rendu leur décision. Et là, Edim, nous parlons des témoins. Qu'est-ce qui s'est passé chez Hirshiu et Tzadik qui ont rendu coupable l'innocent? Vatou Edim Achreni, et sont venus deux autres témoins. Et ont rendu l'innocent, l'innocent. C'est-à-dire, ont déclaré que les deux premiers témoins étaient des menteurs, et donc les ont rendus zomemim. Demeika, celui qui était innocent depuis le début. Veshavinu le'ane Rishaim, et donc ont rendu ces deux témoins zomemim comme étant coupables. Ve'ayim binakot arasha, s'il s'avère que le coupable est passible d'une peine de flagellation, à ce moment-là, il devra la recevoir. C'est-à-dire, s'il peut recevoir la punition qu'il a voulu infliger, alors qu'il la reçoive. Mais s'il ne peut la recevoir, alors il sera passible d'une peine de flagellation. Et donc ici, c'est une allusion que les témoins zomémim, qui ne peuvent recevoir la punition qu'ils ont voulu infliger, alors qu'ils reçoivent une peine de flagellation. La Gemara demande, mais Tipokle, pourquoi ne disons-nous pas qu'ils sont passibles de peine de flagellation, Milotane, parce qu'ils ont transgressé l'interdit, tu ne porteras pas de faux témoignages. Ma réponse, Mishum Dave Lav Shen Bomase. Car cet interdit est un commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active. Vechol Lav Shen Bomase. Et chaque commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active, En Lokien Alav, on n'est pas passible dans un cas pareil d'une peine de flagellation. Tanu Rabbanan, nos sages nous enseignent. Arba Dvarim Nemru Bedim Zomemim. Quatre choses il a été dit sur les témoins Zomemim. Quatre cas. En Nezim ben Groucha ou ben Chalusa, ils ne pourront devenir ben Groucha, fils d'une femme divorcée ou fils d'une femme qui a eu la Chalusa, s'ils ont témoigné sur une telle personne et ils sont devenus Zomemim. Ven Golin Lari Miklat, et ils ne seront pas exilés dans les villes de refuge, s'ils ont témoigné sur quelqu'un qui est passible d'une peine d'exil et sont devenus Zomemim, alors ils ne seront pas exilés. Ven Meshalmi Metakofer, et ils ne paieront pas le kofer, le rachat. C'est-à-dire, il y a une loi qui nous dit que si une personne, si le taureau d'une personne a tué une seconde personne, alors la propriétaire du taureau devra payer un rachat pour se faire pardonner. Donc si deux témoins ont témoigné que le taureau de M. Rouven a tué M. Shimon, et donc maintenant M. Rouven est passible de rachat, de payer un rachat, le kofer, et après il s'avère que ses témoins sont zomémi. Alors dans un cas pareil, ils ne payeront pas le rachat. Ven imkarim be'eved ivri, et ils ne seront pas vendus en serviteurs juifs. C'est-à-dire, il y a une loi qui nous dit que lorsqu'une personne a volé et s'est fait attraper et n'a pas assez d'argent pour rembourser ce qu'il a volé, alors on le vendra en tant que serviteur, afin qu'il soit, payé pour son service, donc, et donc, soit pour lui, il puisse rembourser ce qu'il a volé. Et donc, si deux témoins ont témoigné sur une personne qu'il a volée, et cette personne n'avait pas assez d'argent, et donc elle devait être vendue en tant que serviteur, puis ces deux témoins sont devenus zomémim, alors on ne dira pas que ces témoins deviendront eux aussi serviteurs à la place de la personne sur laquelle ils ont témoigné. Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Akiva Amrou, et au nom de Rabbi Akiva, ils ont dit, Afen Meshamim Alpi Atzmam, ils ne payeront pas sur leur propre aveu. C'est-à-dire, si deux témoins ont témoigné, par exemple, que M. Antel doit une somme d'argent, puis après, sur leur propre aveu, ils ont dit, nous sommes des témoins zomémi, alors dans un cas pareil, ils ne payeront pas la punition qu'ils ont voulu infliger à M. Reuven. Et nous allons expliquer dans la Gemara maintenant, cas par cas. En Esim Ben Groucha ou Ben Chalutza. Ils ne seront pas fils d'une femme divorcée ou fils d'une femme chalutza à la place de la personne sur laquelle ils ont voulu témoigner, Kedamran, comme nous l'avons déjà expliqué plus haut. Ven Golin Laremiklat, et ils ne seront pas exilés vers les villes de refuge, Kedamran, comme nous l'avons expliqué plus haut. Ven Mishalmim et Akofer, et ils ne paieront pas leur achat. L'agma explique pourquoi, Kassavre, car ils pensent, Kouvra Kapara, que le kofer, le rachat, c'est une expiation. Véané, et eux, là, venez Kaparaninou, ils ne doivent pas être expiés. C'est-à-dire, celui qui doit être expié, c'est quelqu'un, la personne, le propriétaire du taureau qui a tué. Or, eux, leur taureau n'a pas tué, donc ils n'ont pas besoin d'être expiés. Donc, si, puisqu'ils n'ont pas besoin d'être expiés, ils ne doivent pas payer le kofer. La Gma demande, Mantana Kufra Kapara, quel est le Tana qui pense que le kofer, le rachat, est une expiation? Amar Rafrida, dit Rabbi Ishmael, Benoche Rabbi Yochanan Ben Beroka. C'est Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan Ben Beroka. Détagne, car nous avons enseigné dans une braïta. Il écrit dans un verset, à propos du cas où le taureau d'une personne a tué une autre personne, Venatal pidion nafsho, et il donnera le rachat de son âme. D'après Tanakama, Demen Isaac, le rachat, c'est la valeur de la personne qui a été endommagée, c'est-à-dire de la personne qui a été tuée. C'est ça, et c'est ça, le rachat de son âme. Rabbi Ishmael ben Osher Rabbi Yochanan ben Beroka, mais Rabbi Ishmael le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka dit, Dme Mazik, le kofer, le rachat, c'est la valeur de la personne, du propriétaire du taureau. Maïlav, alors Gmar nous dit, n'est-ce pas, Beakam Figé, que c'est cela leur discussion. Demas avar Kufra Mamona, un des maîtres pense que le rachat, le kofer, c'est de l'argent que l'on doit, comme lorsqu'on fait un dommage à quelqu'un, alors on doit payer le dommage, de même ici, puisque son taureau a tué une autre personne, il devra donner la valeur de la personne qui a été tuée. Omar Savar et l'autre maître pense, Kufra Kapara, le kofer, le rachat, c'est une expiation. Et donc, puisque c'est une expiation, il doit donner la valeur de la personne qui paye cette expiation. C'est-à-dire, il vient expier ses fautes. Donc, à la place que lui, en fait, en quelque sorte, à la place que lui soit tué, il donne sa valeur en argent et se fait pardonner sa faute. Amarafapa nous dit, l'eau. Non, c'est pas cela l'expiation. Découle Alma, d'après tout le monde, Kufra Kapara, le kofer, le rachat, c'est une expiation. Ici, cela est leur discussion. Mars avar, un des maîtres pense, Bedenizak Shaiminan. On évalue ce rachat par la valeur de la personne qui a été tuée. Ou Mars avar, Bedemazik Shaiminan. Et l'autre maître pense, on évalue le rachat par la valeur de la personne du propriétaire du taureau. Agma demande, Maïta Amay, quelle est leur raison des rabbanan des sages? C'est-à-dire, je peux comprendre, d'après Rabbi Shemel, le fils de Rabbi Yochanan Ben Beroka, qui a dit qu'on donne la valeur de la du propriétaire du taureau, car c'est lui qui doit être expié, donc il donne sa propre valeur. Mais quelle est la raison des sages qui disent, des rabbanan qui nous disent que l'on doit donner la valeur de la personne qui a été tuée? Alors Agma nous répond, Neemar Hashata Lemata. Plus bas, nous avons utilisé le terme Hashata. Une imposition. Venemar hachata lemala. Et plus haut, il a été aussi utilisé le terme hachata, une imposition. Mala lan benen Isaac. De même, plus loin, nous parlons que l'imposition qui est due, alors c'est la valeur de la personne qui a été endommagée. Afkan, de même ici, c'est-à-dire lorsque nous disons imkofer yushat alav, si un rachat lui est imposé, alors c'est Ben Isaac, c'est-à-dire la valeur de la personne qui a été endommagée, donc la valeur de la personne qui a été tuée. vers Rabbi Shmuel, et Rabbi Shmuel nous dit, Venatan pidyon nashoktiv. Lui, il n'apprend pas de cette gzera shava de du mot hachata en bas et du mot hachata en haut, mais de l'imposition. Mais lui, il dit, il écrit dans le verset, il donnera le rachat de son âme. Donc le rachat de son âme, c'est de la personne, du propriétaire du taureau. Vera banan, et les sages, alors comment explique-t-il ce verset? Ils disent, in, oui, pidyon nafso, c'est le rachat de son âme qu'il écrit. Miou, mais cependant, kishaiminan, lorsqu'on évalue la valeur, la valeur du rachat, bedenizak shaiminan, c'est la valeur de la personne qui a été tuée. Donc, ma rapporte maintenant ce que nous avons vu plus haut. Venim karim beved ivri, que les témoins omémim ne seront pas vendus en serviteurs juifs. Ça va, Rav Amnon a les mêmes, Rav Amnon a pensé dire, hanemile, c'est le cas, Echade Hitler et Didé, si lui avait de l'argent, c'est-à-dire la personne sur laquelle ils ont témoigné avait de l'argent, et eux n'en avaient pas. Des Migou, des Iou, l'onisavan, car puisque lui, c'est-à-dire la personne qui a été accusée, n'aurait pas été vendue en tant que serviteur, il n'en a mis l'onisavan, eux aussi ne seront pas vendus en tant que serviteur. Mais s'il n'avait, lui-même n'en avait pas d'argent, c'est-à-dire la personne sur laquelle il avait témoigné n'avait pas d'argent, à Falgar, des Hitler ou les Didou, même si eux en ont, misdavnou, ils seront vendus, étant donné qu'eux, ils ont voulu le vendre. Alors l'Agmara dit non, refute ce raisonnement. Limroulé, ils n'ont qu'à lui dire, et Antavala, si toi tu avais de l'argent, miava misavan, aurais-tu été vendu? Non, tu aurais payé ce que tu as volé, et tu n'aurais pas été vendu. Alors Ananami, nous aussi, l'homme misdavinan, nous ne serons pas vendus, c'est-à-dire nous payons ce que nous avons voulu te faire payer, et nous ne sommes pas vendus. Alors, donc, et la savara, alors, comment nous dit, et la savara Rav Amnon les mêmes. Alors, il faut dire qu'en fait, Rav Amnon a pensé dire, Hanemile, c'est le cas qu'ils ne sont pas vendus, Echade, Itle, Ole, Dide, Ole, Didou. S'il, ou lui, a de l'argent, c'est-à-dire la personne sur laquelle il a témoigné, et donc il n'aurait pas été vendu, ou que eux ont de l'argent, c'est-à-dire que eux ont de l'argent, et donc peuvent toujours dire, si toi tu avais eu de l'argent, tu n'aurais pas été vendu, donc nous, maintenant que nous avons de l'argent, nous ne sommes pas vendus. Aval, Echade, Itle, Ole, Dide, Vel, Ole, Didou, misavne, mais si c'est dans un cas où ils n'ont ni eux de l'argent, ni lui de l'argent, alors ils seront vendus, c'est-à-dire qu'étant donné qu'eux ont voulu le vendre, le faire vendre, et eux-mêmes n'ont pas de quoi payer, donc eux-mêmes aussi seront vendus. Zamar le Rabba, Rabba lui a dit, non, il écrit dans le verset, « Venimkar bignevato » et il sera vendu pour son vol. Amar Rahmana, la Torah a dit, « Bignevato velo bismamo » et nous apprenons de là qu'il sera vendu pour son vol, mais pas pour sa mauvaise intention lorsqu'il a témoigné. Et donc c'est un décret de la Torah que seulement celui qui a volé est vendu, et non pas les témoins omémis. La Gemara rapporte maintenant un extrait de ce que nous avons vu plus haut. Mishum Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Akiva, ils ont dit qu'ils ne paieront pas de leur propre aveu, c'est-à-dire s'ils ont avoué eux-mêmes et des témoins omémis, ils ne paieront pas la punition qu'ils ont voulu infliger. Alors la Gemara demande Maïtama de Rabbi Akiva, quelle est la raison de Rabbi Akiva? Qu'à savoir, lui, il pense Knasaou, que ce que les Edim, les témoins omémis payent, c'est une amende. Et il y a une règle qui nous dit, Veknas en Meshalem al Piatsmo. Et une amende, on ne la paye pas sur son propre aveu. C'est-à-dire, si quelqu'un, d'après la loi de la Torah, vient au tribunal et avoue être passible d'une amende qui lui a été infligée d'après les lois de la Torah, alors dans un cas pareil, il est exempt de payer cette amende. Amar Rabba, Rabba nous dit, une preuve que c'est une amende, Teda, sache, Share lo asu maase, Veneragim ou Meshalmim. Ils n'ont rien fait, ils n'ont fait que parler, et malgré cela, ils peuvent soit être punis de peine de mort, soit avoir une punition financière, devront payer quelque chose, bien qu'ils n'ont rien fait. Donc c'est sûr que c'est une amende. Normalement, il faut faire quelque chose pour recevoir une punition. Eux n'ont rien fait et reçoivent une punition. Amar Rav Nachman, Rav Nachman nous dit, Teda, sache une autre preuve que c'est une amende. Sharem Amon Beyad Baalim ou Meshalmim. Lorsqu'ils ont témoigné, par exemple, que M. Intel devait payer tant et tant. Puis après, ils se sont trouvés, il s'est avéré que c'est ses omémis. Donc en fait, l'argent de la personne sur laquelle il témoignait reste entre ses mains. Et donc, puisque l'argent reste entre ses mains, c'est eux, en fait, n'ont pas fait sortir d'argent, puisqu'ils n'ont pas fait sortir d'argent. Et malgré cela, ils devront payer la punition qu'ils ont voulu infliger. Donc nous voyons qu'ils n'ont rien fait, et malgré cela, ils payent. Donc nous voyons ici que c'est sûr que c'est une amende.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf HaYomi quotidiennement en vidéo.